9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est avec nous, tout comme l'ancien instructeur du RAID, Bruno Pomard, et Barbara Lefebvre, enseignante. Deux sujets de discussion, c'est à vous de choisir tout à l'heure à 11h. Deux propositions. Voulez-vous que l'on parle de l'Hérault avec 6000 personnes encore dans une rave party illégale, et c'est dans une zone classée Natura 2000? Ou bien souhaitez-vous que l'on parle de l'arrêt du tabac et l'éventualité d'un remboursement des vapoteuses, des cigarettes électroniques? C'est un des deux sujets. On en parle tout à l'heure à 11h. Vous votez sur les réseaux sociaux et ensuite on voit ce que vous avez choisi. En attendant, les amis, attention, c'est l'heure d'accueillir notre invité.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Nous accueillons notre confrère du Figaro, Judicaël Hirel, auteur de ce livre « Concorde rouge dans la peau d'une victime d'agression ». C'est aux éditions Le Cherche Midi. Bonjour Judicaël.
Bonjour.
On reçoit un rescapé aujourd'hui, rescapé d'une agression qu'on pourrait dire finalement assez banale, entre guillemets, d'une violence qui est devenue une réalité quotidienne en France. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là, dans ce métro. Que vous est-il arrivé ?
Novembre 2017,
ouais. C'est vrai que c'est un petit peu l'archétype de l'agression ultra-violente, parce que c'est rapide, c'est très violent, et j'ai failli y rester. Mais en fait, je rentrais juste du travail, comme tout le monde, en prenant le métro, comme on le fait en région parisienne très régulièrement. Et vers 19h30, donc pas une heure où il n'y a personne dans le métro, l'heure de pointe, et en descendant à la station Concorde, qui est vraiment au centre de Paris, qui permet d'avoir différentes correspondances, il y avait dans la rame où j'étais un jeune homme avec sa bouteille de bière à la main, l'air pas très en forme, pour être sincère. Et en descendant de la rame, il descend devant moi. Il y a une jeune femme qui descend devant lui. Il y a un grand escalier pour sortir au bout du quai. Et là, il est juste derrière cette jeune femme. Je vois très bien ce qu'il regarde. Et clairement, il lui met une grande, grande main aux fesses dans l'escalier, alors qu'elle n'avait rien demandé à personne et qu'elle rentrait juste chez elle. Ce qui s'appelle une agression. Donc, elle a évidemment enlevé ses écouteurs en protestant sur, mais ça va pas bien, quoi. Et là, ils ont commencé à s'embrouiller. Et vu l'état du type, et vu comment ça avait l'air de beaucoup l'amuser en plus, je me suis dit que ça allait mal se passer pour elle. Donc, je suis intervenu, non pas pour me battre avec lui, mais juste pour exfiltrer la fille. Il dit, bon, ça suffit, on va en rester là. Vous savez ce que vous avez fait. Merci, au revoir. Donc, il s'est mis en garde pour pouvoir se battre avec moi en posant sa bouteille. Il dit, tu veux te battre? Pas du tout. Donc, j'ai décliné sa sympathique offre. Et je suis parti avec la demoiselle dans un long, long couloir qui traverse tout le sous-sol de la place de la Concorde en cherchant ma carte de visite pour lui donner, parce que je pensais qu'elle porterait plainte. Et lui, il est parti. Il nous a doublé en nous insultant. Ce que je ne savais pas, je l'ai appris après, beaucoup plus tard en me réveillant, c'est qu'il s'était embusqué dans un couloir latéral de cette station de métro et mis ses capuches, gardé sa bouteille de bière. Il est arrivé derrière moi, il m'a mis un grand coup à la tempe, un coup de poing en sautant en l'air, vraiment avec la bouteille et la main. Et il m'a explosé la tempe, littéralement. Donc c'est vraiment comme dans les jeux vidéo, j'ai vu rouge, puis noir, puis plus rien. Et en fait, il m'a assommé, et après j'étais au sol, KO, et là il m'a explosé la tête à coups de pied. J'avais sûrement dû le mettre de très mauvaise humeur. Et il est passé à deux doigts de me tuer, vu qu'il m'a vraiment émietté le visage, j'ai pas d'autre mot.
14 fractures du visage.
14 fractures au visage.
Vous avez donné des coups de pied à la tête?
Oui, il a pris ma tête pour un ballon, oui. Effectivement, mais avec des bonnes grosses chaussures.
Et comme donc vous étiez KO dès le premier coup, vous ne vouliez pas vous protéger, en fait.
Non, mais le grand avantage, c'est que je ne me rappelle absolument pas. C'est l'avantage d'être KO. Comme ça, j'en ai aucun souvenir. En revanche, les gens qui étaient autour, eux, s'en rappellent.
Mais donc, il vous a émietté le visage.
Oui, oui. En fait, quand je suis arrivé aux urgences deux jours plus tard, on m'a expliqué s'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait. Donc, l'ensemble des os du visage, les joues, la mâchoire, le nez, étaient vraiment émiettés à coups de pied. Donc, ça a été très bien refait. Je remercie les chirurgiens.
Et comment il tient votre visage aujourd'hui?
Bah, c'est les os, ça se répare. Donc, en fait, il y a une cinquantaine de petites places de plaques de titane sous la peau qui ont permis.
Oui,
et je les garde parce que j'ai pas envie de renlever le visage pour les enlever, je vous rassure. Une fois, ça suffit. Et qui ont permis que les os tiennent en place pour pas s'effondrer. Sinon, ça fait un peu comme les gueules cassées. Vous voyez, ça fait des trous.
Mais vous auriez pu mourir, mais en fait, la jeune femme vous a sauvé.
C'est passé à deux coups de pied du cimetière. Ça, clairement, on me l'a dit aux urgences. Un petit peu plus, j'étais mort. Mais cette jeune femme, je ne sais pas si elle s'en rend vraiment compte, mais elle m'a sauvé parce que j'ai appris par la suite, en la revoyant, que quand il m'a frappé, elle s'est couchée sur moi pour me protéger et s'est elle-même prise des coups de pied. Ceux qui, finalement, ne m'ont pas achevé. Et elle a crié en appelant à l'aide. Je vous rassure, personne n'est venu.
Ouais,
mais ça l'a fait partir.
Personne n'est venu.
Ah non, elle a appelé au secours et personne n'est intervenu.
Ça s'est arrêté. Pourquoi alors?
Parce que lui, il est parti en courant. Et parce que le fait de pas intervenir, parce qu'il y a un effet de sidération et que quand les gens voient une chose, ils mettent un certain temps, je pense que le cerveau met un certain temps à réaliser que c'est vrai, en fait. Donc, j'en veux pas à ceux qui interviennent pas, mais naturellement, les gens n'interviennent pas.
Un petit peu quand même, mais bon, encore une fois, comment on se met pas à la place mais c'est là où c'est un véritable problème, ça, parce que la mobilisation, s'il y avait un collectif autour qui se serait mis tout de suite autour de vous, même, hein, je pense que la situation aurait cessé, mais bon, en même temps, c'est malheureusement le cas trop souvent.
Là, c'est les cris de la jeune femme. Du coup, il s'est dit, bon, faut que je m'en aille parce que je vais me faire avoir. Il est parti en courant. Il y a des gens qui ont cherché à l'attraper dans le couloir, mais qui l'ont pas eu. Et après, une fois rendu dans les rues de Paris, merci.
Et l'agresseur n'a jamais été retrouvé.
Absolument jamais.
En 2017, on a été quand même placé en deux mois. Donc, il est libre.
C'est le seul regret que j'ai dans toute cette histoire, effectivement, c'est que ce type qui, en cinq minutes, arrive à agresser une jeune femme sexuellement et après à m'exploser la tête, est en liberté, n'a pas de condamnation, n'a rien, et peut très bien, ou a très bien pu recommencer
les choses. Il n'y a pas des caméras?
Il y a des caméras dans les.
Il a mis une capuche.
Il a mis une capuche. La caméra, c'est pas comme les vôtres. Elles sont au-dessus, au niveau du plafond. La qualité des images est relative. Il y a une grosse vitre qui protège l'objectif au pas l'abîmer. Et in fine, vous obtenez une résolution pitoyable et des images quasiment inutilisables. Vaut mieux filmer avec un smartphone qu'attendre une caméra de surveillance.
Vous avez d'ailleurs appris à cette occasion que les images filmées, enfin, ce qui est filmé par la RATP est détruit très rapidement.
Oui, mais on avait déjà appris ça plus largement avec cette histoire des Anglais du Stade de France.
Tout à fait.
C'est un peu le même système. C'est que pour des raisons de protection de la vie privée, on peut pas garder ad vitam des vidéos. Sauf qu'elles sont rapidement détruites, 48 à 72 heures. Ouais, moi, le savais, donc je suis allé porter plainte dans les 48 heures. Mais le process légal, on peut pas appeler ça autrement, c'est que vous devez aller porter plainte, et là, la police peut réquisitionner les images auprès de l'entité.
Mais pardon, si vous étiez dans le coma.
Eh bien, les images auraient été détruites, tout simplement.
Donc, la RATP elle-même se dit pas, tiens, il y a eu une agression, gardons les images, ça pourrait servir à la police.
Alors, je leur ai posé la question, j'ai eu deux réponses différentes de leur service, je ne sais pas laquelle est la bonne. La première, on m'a dit, si on n'a pas assez de capacité de stockage pour garder les images, à l'heure de Netflix, je suis un peu dubitatif. Le streaming, quand même, ça, c'est gourmand en stockage. Et l'autre, c'était pour des raisons de protection de la vie privée et de CNIL, on n'a pas le droit de garder les images. Ce qui était assez intéressant, pour protéger la vie privée des agresseurs sur une agression constatée par les agents de la RATP, j'ai du mal à saisir la
peur. Mais là-dessus, pour avoir.
Alors Jean-Baptiste, ancien ministre des Transports.
Non, mais je pense qu'il y a un sujet culturel. À l'époque du Covid, moi j'avais demandé à ce qu'on utilise des algorithmes pour détecter, à l'époque, le port ou le non-port du masque. Et donc le sujet, c'est un sujet de données de vie personnelle, puisqu'il fallait pouvoir, selon la loi, que la personne qui est filmée oppose un droit de refus. Ce qui en pratique, évidemment, on voit un peu les difficultés. Mais culturellement, l'idée d'avoir des algorithmes sur les caméras, ça permet aussi de détecter les rixes, les attitudes qui sont hostiles, les risques près des voix, etc., etc. Et force est de constater que culturellement, aujourd'hui, politiquement, ou dans la loi ne le permet pas tout à fait, il faudrait la faire évoluer, on n'est pas encore du tout dans un moment où on utilise de façon systématique les caméras augmenter l'intelligence artificielle pour justement prévenir ce type d'agression. C'est culturel.
Oui, mais on n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Les images, on les a, elles existent, on les détruit. La seule question, c'est quand vous avez des agents d'une de la RATP ou n'importe quelle autre régie d'ailleurs, qui constatent une agression dans les couloirs.
Parce qu'ils sont venus, les agents.
Ça, c'est la procédure à la limite.
On pourrait simplement avoir une petite modification de texte de loi pour dire,
ça, c'est la procédure.
Par défaut, on va garder l'image au cas où ça servirait pendant un mois.
Je pense qu'il fallait du bon sens. C'est du bon sens, c'est la procédure. Mais par exemple, vous prenez quelques pays, on parlait de la Turquie tout à l'heure, ou Israël, dans les transports en commun, vous avez tous ces algorithmes qui permettent de détecter immédiatement des postures qui sont agressives, d'envoyer immédiatement des forces de l'ordre.
Là, vous êtes dans l'amont, moi je suis dans l'aval.
C'est beaucoup plus intégré.
Là, vous parlez d'éviter une agression, moi je parle d'agressions qui ont déjà eu lieu où on veut garder les éléments de preuve.
Non, mais, c'est
complémentaire.
Est-ce que c'était un SDF, l'homme qui vous a agressé ou pas dans le métro?
Non, pas du tout. Pour être sincère, c'était plutôt le profil de la petite frappe, comme j'ai pu l'écrire dans le livre. On aurait dit un de ces voyous des films John Wick qui se font tuer par Keanu Reeves au bout de 5 minutes. Le petit mafieux de base, habillé en noir, des pieds à la tête, les cheveux 3 mm, avec un fort accent russe, un fort accent des pays de l'Est en tout cas, je ne vais pas accuser un pays ou un autre.
Ancien militaire ou quelque chose comme ça peut-être.
Quelqu'un qui connaît les règles du jeu du combat dans la rue. Moi je les ai plus appris sur un tatami, attaqué par derrière, je ne connais pas, mais quelqu'un qui est habitué effectivement à se battre.
En même temps, pour sauter derrière avec une bouteille, ça ne va pas être un grand spécialiste du combat, c'est surtout un lâche, un véritable lâche. Ça,
c'est plus efficace dans le dos.
Pourquoi avoir voulu raconter votre histoire dans un livre?
Parce que j'étais en colère en fait. Différentes colères, mais parce que j'étais en colère. Évidemment, quand on écrit genre de livre, on se fait d'abord du bien à soi-même, il faut être sincère. Oui. On a fait du bien de poser sur le papier et de sortir certaines choses. Mais après, je voulais surtout sortir du positif, du négatif et faire un livre pour que ça serve à quelque chose. Parce que quand on devient victime, on rentre dans une sorte de vie parallèle, on découvre des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Pendant 45 ans de vie jusqu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas constatées parce que je n'étais pas une victime. Je n'avais pas constaté ces questions de surveillance, je n'avais pas constaté combien de temps prend la justice, une indemnisation, une expertise judiciaire. Il faut le vivre pour le connaître. Et je n'avais surtout pas vu du tout à quel point les femmes ont peur au quotidien de prendre le métro et transports en commun, et mettent en place des stratégies pour éviter de se faire agresser. Mmh. Et le nombre de femmes qui sont venues discuter avec moi, m'expliquer leur agression et la honte qu'elles avaient de s'être fait agresser, c'est quand même le monde à l'envers. C'est les victimes qui ont honte d'avoir été agressées. Et comment est-ce qu'elles faisaient attention à éviter les problèmes? Je me suis dit, mais en 45 ans, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait attention et j'avais honte finalement de ne pas l'avoir vu. Le livre, c'était aussi pour mettre ça en avant, pour parler, non pas pour des victimes, mais en tant que victime, de victimes potentielles que sont les femmes.
Barbara. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui a pris le métro ou le RER parisien qui ne s'est pas fait agresser, et pas qu'une fois. Oui. Agresser verbalement et physiquement, évidemment, on a toutes connu ça. Et tout le monde a des réactions qui lui sont propres. Ça dépend beaucoup du tempérament. Je pense que c'est pour ça qu'une question « Sommes-nous devenus lâches ?» c'est difficile de répondre, parce qu'il y a aussi des questions de tempérament. Moi, je suis souvent intervenue quand je voyais une fille se faire embêter ou agresser. En fait, il y a une forme d'irresponsabilité de ma part, parce que j'étais une femme seule qui défendait une fille seule. Oui. Et je pense que bien des fois, c'était peut-être il y a 10 ans, mais bien des fois, en fait, je me suis pas rendu compte du risque que je prenais, parce que je voyais que les hommes ne bougeaient pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée pendant des années de pratique du RER, c'est pratiquement toujours des femmes, parfois des femmes âgées, qui bougent par rapport à des jeunes, parce qu'elles se disent qu'avec l'âge, elles vont pas se prendre un coup de poing, ce qui peut parfois arriver pourtant, voire des coups de couteau. Mais j'ai toujours vu, je suis vraiment navrée de le dire, mais c'est une constante, j'ai toujours vu les hommes se plonger dans leur téléphone, dans leur journal, ou bien écouter leurs petits iPods, mais très rarement venir à notre secours. Et je pense que ça, c'est une vraie problématique. L'autre problématique, moi, qui me semble, et que vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, comment le juge a-t-il pu classer sans suite votre dépôt de plainte moins de 2 mois après votre agression? Parce que le vrai scandale, il est aussi là.
Je l'ai relu beaucoup plus tard, parce qu'on n'aime pas trop se plonger dans les paperasses quand on est en train de se remettre en forme, mais il suffit de minorer les faits sur la demande au procureur. C'est-à-dire que le courrier que j'ai vu du brigadier au procureur disait, voilà, ce monsieur s'est pris un coup de pied et un coup de poing dans le métro, la jeune femme n'a pas porté plainte et n'a pas souhaité témoigner, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis procureur, je classe. Je m'étais fait démonter la tête. La jeune femme avait témoigné et avait porté plainte. Ouais. Mais ce qui était marqué sur le document transmis au procureur appelait à classer. Donc, ça permet aussi de classer une affaire et de s'en débarrasser.
C'est pas un faux de la part du brigadier.
La
jeune femme a porté plainte, il dit qu'elle n'a pas porté plainte.
Le problème, ça n'enlève pas les faits très graves qu'a subi ce monsieur. Mais en même temps, c'est toute la journée.
Et alors?
Mais il déclare factuellement. Monsieur a pris des coups de pied dans la tête. Mais c'est toute la journée. Vous imaginez même pas.
Il y a une différence entre dire.
Mais non, mais c'est
vrai. Il a pris combien?
Je pense pas qu'il est banalisé sur le brigadier. Très sincèrement.
C'était marqué sur le document. J'avais pris un coup de pied, un coup de poing.
Voilà, entre un coup de pied, un coup de poing, et arrivé à l'hôpital avec attesté.
Vous avez été tout de suite.
Les 14 qui les a.
Non, mais surtout, vous êtes allé tout de suite à l'institut médico-légal, j'imagine.
Vous étiez un petit peu plus tard.
Oui. Mais la déposition. Donc, on est venu vous interroger.
Oui, moi j'ai. J'ai expliqué ce qui s'était passé, que je m'étais fait frapper dans le métro en ayant pris la défense d'une femme, mais il n'y avait pas encore de constat exact du débat sur reçu.
Voilà, non, mais attention, c'est important. J'ai été frappé dans le métro.
Le brigadier ne peut pas savoir ce qui s'est passé exactement s'il a vu les images, je lui en veux pas.
Il relate les faits, comme il a dit. Il a dit j'ai été frappé dans le métro.
Il pouvait tomber bien pas savoir, ni savoir qu'elle avait porté plainte.
Là, il y a quand même un sentiment d'impunité forcément qui se développe chez l'agresseur. Il n'a jamais été embêté. De toute façon, c'est classé. On le retrouvera jamais. Il recommencera.
Non mais
pourquoi il ne recommencerait pas?
Non mais je suis d'accord Olivier. Non mais ce que je parle c'est par rapport à Barbara Scalise, par rapport au brigadier. Le gars,
c'est pas de sa faute.
Il a réécrit.
Oui, d'accord.
Textuellement, ce qu'on a dit.
Que le contexte est assez choquant.
Oui, mais je comprends. Ensuite, vous n'êtes pas retourné à la police avec votre certificat de l'institut médico-légal, la plainte de la jeune femme, ne serait-ce que pour que l'enquête soit relancée.
Mais je suis déjà allé à la police pour chercher à l'identifier dans les fichiers. Donc ils ont fait leur travail très bien, m'a présenté des fiches et je l'ai pas reconnu.
Vous aviez en mémoire son visage?
Moi, je m'en rappelle très bien. Si je le reproche, je le reconnaîtrai facilement. Il n'y a pas de souci. Même sa voix, je m'en rappelle très bien. Le cerveau imprime bien ce genre de choses. Malheureusement, heureusement, je ne l'ai pas encore recroisé.
Eh bien, dans un instant, vous aurez le témoignage aussi de Liamine. Liamine, il est chauffeur, accompagnateur pour personnes en situation de handicap. Et il est du côté d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Et il a dû intervenir il y a quelques temps de ça, en tant que chauffeur, il s'est interposé. Il nous racontera aussi son anecdote. Judicaël Hirel, notre confrère du Figaro, est avec nous. Il raconte son agression dans le métro en novembre 97. Il en a fait un livre, Concorde Rouge.
Dans 2017.
Oui,
97.
Ah pardon, 2017. Dans la peau d'une victime d'agression. C'est aux éditions Le Cherche Midi. À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules, en direct sur RMC, RMC Story, on écoute le témoignage de notre confrère Judicaël Hirel du Figaro qui raconte cette soirée de novembre 2017 au cours de laquelle il a failli y rester. Il s'est fait violemment agresser parce qu'il venait de porter secours à une jeune femme dans le métro. 14 fractures du visage. Aujourd'hui, c'est des petites plaques de titane qui tiennent vos os, votre visage. C'est ce que vous nous racontez, Judicaël, et c'est un témoignage dans ce livre « Concorde Rouge ». Aux éditions Le Cherche Midi, Lamine est avec nous. Bonjour Lamine.
Avant d'accueillir.
Oui, bonjour.
Une question bonjour simplement. Vous êtes toujours en contact avec la jeune femme?
Oui, toujours. Elle va très bien.
Lamine, ça vous est arrivé, vous, de vouloir vous interposer?
Absolument. Oui. J'ai été confronté moi aussi à ce genre de choses. Également dans les transports, pas dans le métro, dans le bus. Donc, j'ai pris le témoignage de Monsieur Hirel un peu au milieu et bon, j'ai beaucoup de compassion pour lui parce que bon, moi aussi j'ai des plaques de titane dans la tête, donc ça nous fait un point commun. Et ce que je peux comprendre dans son témoignage, c'est que à mon avis, il n'est pas habitué à tout ça. Donc je comprends sa révolte sur le fait que la justice n'ait pas donné une réponse adéquate, en fait.
Et vous, que vous est-il arrivé, Lamine, alors racontez-nous.
Ben, un matin, en fait, ma voiture ne démarrait pas, hein, pour faire rapide. Je devais me rendre à mon travail, j'étais en retard, donc j'ai dû prendre le bus. Et le bus était bondé. Et je le prends à mon arrêt et quelques arrêts plus loin, ben il y a un type en fait qui monte et c'était le genre, vous savez, le genre que vous croisez au feu rouge en train de jongler ou en train de faire la manche avec les clébards, quoi, ou que vous croisez au tabac du quartier, quoi. Ce type-là avec une odeur effroyable, quoi. Ouais. Donc il est monté sans payer, sans rien du tout, donc. Et donc rien que comme ça, je veux dire, les gens, ils étaient en train de faire c'était pas une haie d'honneur, mais on sentait déjà que les gens, ils voulaient l'éviter.
Ouais.
Donc, comme il n'y avait pas beaucoup d'espace dans le bus, il était déjà agacé. Mais bon, à la limite, je veux dire, à partir du moment où il emmerde personne, il va dans son coin, ben, il n'y a pas de souci. Mais il y avait une petite mémé qui était avec son caddie, je me souviens, dans une place assise. Et pour une raison que je connais pas, ben il s'en est pris à elle. Il s'est arrêté devant elle. Il a commencé à l'invectiver. Il a commencé à lui dire bon, lève-toi, va-t'en. Et il y avait quand même beaucoup de gens. Il y avait des gens de tout âge. Il y avait, à mon avis, de toute catégorie socio-professionnelle. Hein. À la limite, je vais même pas m'étendre sur les races, sur ce que vous voulez. Mmh. Là aussi, c'est pareil, hein. Personne n'a bougé rien du tout. Hein. Donc là, je reviens sur ce que disait M. Hirel tout à l'heure.
Mais c'est vous qui vous êtes interposé, c'est ça ?
Pardon ?
Lamine, c'est vous qui vous êtes interposé entre la vieille dame et ce monsieur, c'est ça ?
Je ne me suis pas interposé tout de suite parce que je me suis dit que ça allait pas monter. Je me suis dit qu'il allait se calmer. Donc d'accord. Pour l'instant, je ne disais rien. Mais je veux dire, tout le monde a senti que ça commençait à monter. Et personne bougeait, personne ne faisait rien. Chauffeur compris. Hein. Chauffeur, il continuait à prendre ça, il continuait le trajet et tout. Mmh. Et le gars gueulait très très fort quand même, hein, je veux dire. Mais la petite mamie, elle ne s'est pas démontée, elle n'a pas eu peur. Quoi, hein. Elle était en train de lui dire qu'elle avait le droit de rester là, assise et tout ça, qu'elle était fatiguée. Et le gars, il lui dit, bon, tu te lèves ou je te casse la tête. Ça. Et bon, à un moment donné, c'est là que je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, allez, il faut fou le camp et dégage, t'as pas le droit et tout ça. Et c'est là qu'il a arrêté de lui parler, il s'en est pris à moi. Et donc là, moi, très vite, j'ai plus parlé avec lui non plus, on a commencé à se battre.
Et ça s'est mal terminé pour vous.
Gens, bon ben, si vous voulez, on est passé de. Ils n'interviennent pas, ils assistent à un spectacle. Voilà ce qu'ils ont fait. Là, le chauffeur, il a vu ce qui se passait. Bon, là, il s'est arrêté. Et vous savez, les freins d'un bus, c'est puissant. Hein, donc, on est tombés tous les deux parce qu'il a mis un coup de frein très, très fort. Et les portes arrière se sont ouvertes. Et d'un coup, en fait, on s'est relevés tous les deux. Et puis, on a terminé notre course dehors. Et en fait, bon, je reviens sur ce que Monsieur Hirel disait tout à l'heure. Monsieur Hirel avait dit, il y a un effet de sidération. Oui, c'est vrai, ça c'est indéniable, on peut pas le nier. Les gens, ils sont choqués quand il y a eu éruption comme ça, éruption de la brutalité, de la violence dans la vie de gens ordinaires. Parce que voir ça dans un film, c'est une chose, hein, mais le voir comme ça dans la réalité, ça choque les gens. Mais moi, il y a un truc dont je suis définitivement persuadé, parce que je l'ai vu des tas de fois dans ma vie, c'est l'égoïsme dont les gens font preuve. Les gens ne veulent pas se mouiller. Les gens, ils n'ont pas envie de se prendre des patates dans la tronche. Les gens, ils n'ont pas envie d'avoir leur fringue déchirée. Les gens, ils n'ont pas envie de voir leur portefeuille par terre. Parce que moi, suite à ça, je me suis retrouvé avec le nez écrasé, du sang dans la bouche. Et pendant une semaine, je me mouchais. Tous les jours, j'avais du sang qui sortait de mon nez. J'avais un cocard à l'œil et c'était comme ça.
Lamine, je pense pas que c'est de l'égoïsme, c'est de la peur.
C'est pas la même chose que l'égoïsme. Mais les gens, ils ont pas envie de se mouiller, vous comprenez?
Moi, je pense que c'est de la peur. Et pardon, mais quand on entend le témoignage de Judika Alirel, votre témoignage, il fait peur. Et je suis pas sûr qu'il incite à intervenir. Beaucoup de gens qui disent, dis donc, si j'interviens et si c'est pour me retrouver à l'hosto avec 14 coups de...
Oui, mais non, en fait. C'est vrai que c'est le danger de ce genre de témoignage, c'est que ça soit double tranchant et que ça te décourage d'intervenir. Mais
vous le referiez?
Déjà, je le referais. Dans les métiers consens, je ferais exactement la même chose parce que ça me paraît pas négociable de ne pas intervenir. Mais après, j'ai dû intervenir, je sais pas, 10-12 fois comme ça, à chaque fois calmement, juste pour que des abrutis arrêtent d'embêter une vieille dame, une jeune fille ou autre, juste en s'asseyant à côté, en regardant dans les yeux, sans rien dire. Voilà, calmement, vous imposez une présence. Déjà, la personne sait que vous lui gâchez son petit jeu, ça suffit généralement. 95% de ce genre d'agresseurs sont des lâches. Déjà parce qu'ils s'agressent, mais après parce qu'ils se découragent très vite. Il n'y a pas besoin de les terroriser en leur gueulant dessus.
Oui, mais vous-même,
donc
vous
là, ça s'est mal passé une fois, mais une fois sur 10. La majorité du temps, ça se passe bien.
Mais vous-même, on vous a donné une médaille pour saluer votre courage. On dit vous êtes un héros. Vous voyez bien ce que vous avez fait, pas quelque chose de banal.
C'est un peu le problème de
le héros du quotidien.
Mais moi, je ne me considère pas du tout comme un héros, mais c'est là où c'est une des raisons qui m'ont énervé, qui m'ont fait faire le livre, c'est que de me dire, quand on m'a donné cette médaille, on m'a dit je vous donne cette médaille parce que vous comprenez. Personne n'intervient jamais. Cette phrase-là m'a glacé. Je me dis, mais non, c'est pas possible.
Exemplaire.
Est-ce que vous pensez que c'est
merci
un problème,
à Lamine d'avoir été avec nous de ce témoignage.
Un problème français. Est-ce qu'on a un manque d'esprit de défense collective? Et je prends un exemple parmi quand il y a eu l'agression du Thalys, pour rappeler, qui avait été personne maîtrisée par deux militaires américains. On avait beaucoup loué la formation des Américains, le service militaire, pareil en Israël. Et je dis pas du tout que c'est un sujet, mais est-ce que de votre point de vue, on a, nous, en France, du fait aussi de l'arrêt ou de la suspension du service militaire, un problème de la formation à la défense collective?
C'est possible. C'est possible. Effectivement, il n'y a plus de lien armée-nation, comme jadis, avec tout le monde ayant eu un rapport avec l'armée, une formation de base et une formation à s'engager aussi, à être responsable, à se dire qu'il appartient à chacun de penser à tous, en fait. Donc, dans une société comme Israël ou d'autres pays, ça tombe sous le sens que tout le monde doit faire attention à tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas un réflexe français, c'est vrai. Moi, j'ai fait mon service, j'ai même fait une formation d'officier. Ça me paraît évident, comme ça pouvait l'être au moment des attentats ou autres, que chacun jette un œil au cas où et s'il n'y a rien, tant mieux.
Voilà. Ça a peut-être changé quand même depuis les attentats parce que tu parles d'Israël, mais Israël, c'est un pays qui est en guerre depuis sa création et donc il y a toujours cette menace. Je pense quand même depuis les attentats, on est tous beaucoup plus vigilants. Pas sur les violences quotidiennes, mais sur le risque attentat, sur les objets qui sont laissés.
Oui, on est vigilant, mais sur les questions d'agression, par exemple, quand il y a ce qu'a raconté Lamine tout à l'heure ou ce qu'a vécu Judicaël, on ne demande pas forcément à ce qu'on ait Rambo et un mec qui arrive et paf, qui fout le coup de poing. Bon, ça, tant mieux s'il y en a un dans la rame. Enfin bon, l'essentiel, c'est que quand c'est un agresseur, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs agresseurs, n'est-ce pas? Qui toujours à plusieurs contre un, on est toujours dans l'acheter. Mais quand vous avez une personne, surtout les personnes un peu éméchées qui tiennent des propos un peu incohérents, si on est plusieurs à se lever, ça peut même être plusieurs femmes, deux femmes, trois hommes qui se lèvent, qui disent non, qui sont fermes dans le ton sans être agressifs physiquement, mais qui effectivement agissent par leur présence physique et le ton de la voix, ça comptera. Mais si on est toute seule, si c'est une autre pauvre fille fluette ou un seul gars qui se lève et qui vient s'interposer, ça fait trop peu par rapport à quelqu'un dont on sait par ailleurs que l'alcool va le désinhiber et va le rendre encore plus efficace dans sa violence que nous-mêmes, on est à froid. Donc je pense que quand même, il y a l'idée de ce collectif, de faire collectif quand on voit une agression. Et là, je suis navrée, mais vous avez été tout seul pour aider cette jeune fille qui s'est pris la main aux fesses. Elle ensuite a été tout seule à venir vous défendre. Et à chaque fois qu'on intervient, On est tout seul. Moi, quand je suis intervenue, ou n'importe qui ici, quand on intervient, on se dit, tiens, peut-être le fait de moi, je me lève et ça va enlever d'autres. Ah bah non.
Il faut carrément interpeller les gens.
Non, ils se disent, ah bah tiens, c'est bon, elle le fait. C'est bon, je peux laisser tomber. C'est ça le problème. C'est l'esprit collectif.
Je vais vous faire sourire, mais après cette agression, j'ai reçu un message à Facebook, parce que les gens peuvent facilement trouver qui vous êtes, de quelqu'un qui était passé dans le couloir ce soir-là, qui m'a dit, dans le message, que j'ai découvert quelques jours après, je suis désolé, je suis passé dans le couloir, j'ai vu ce qui se passait, mais je me suis pas arrêté.
Culpabilisé, le mec.
Parce qu'il culpabilisait. Et j'ai pas répondu, mais c'était un petit peu tard, effectivement. Ah oui. Passer, se dire, mince, j'aurais dû. À un moment, faut pas toujours réfléchir. Faut peut-être agir avant de réfléchir. Moi, j'ai pas réfléchi pour intervenir, je réfléchirai pas. Mais voilà, on le fait ou on le fait pas.
Non,
mais
parce que dans ce couloir, il y avait énormément de gens qui passaient. Je suis désolée. S'il y avait eu deux mecs qui se mettaient sur lui et qui tapaient sur lui à coup juste avec deux poings. Il y a pas besoin d'armes ou de parapluie. À coup de deux poings comme ça, ils vous lâchaient. Donc moi, je suis désolée.
Magomed,
il y a une irresponsabilité.
Nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour, Magomed.
Pas normal de rien faire.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez assisté à des agressions et vous êtes intervenu à chaque fois.
Oui, c'est ça, deux fois. Une fois, je rentrais à 2h du matin chez moi et à l'arrêt de bus, il y avait une personne, un monsieur un peu âgé et deux agresseurs sur lui, dont un avec un couteau. Et j'ai entendu des cris, moi en fait, je passais en voiture. Je me suis arrêté directement parce que j'ai vu l'agression. Je me suis arrêté en plein milieu de la route. Et au moment où je suis sorti de la voiture, les deux agresseurs ont commencé à courir. Donc le monsieur n'a pas lâché son sac parce qu'il était en train de tirer son sac en même temps et de lui mettre des coups de poing. Et au moment où je suis descendu, ils ont couru. Donc le monsieur, il était vraiment choqué, il tremblait, etc. C'était assez tard, à 2h du matin, il n'y avait personne dehors. Et je l'ai pris avec moi, je l'ai déposé à sa destination où il allait, jusqu'à chez lui. Et jusqu'à l'arrivée, il était vraiment choqué. J'ai essayé de le rassurer tout le long. Mais je suis d'accord avec l'auditeur d'avant. Si on voit une agression, faut vraiment intervenir parce que c'est souvent des lâches, c'est vrai, les agresseurs. S'il y en a un ou deux qui viennent, moi, à chaque fois que j'ai voulu intervenir, ils ont fui. Mm-hmm. Donc, je sais pas si c'est dû à ma carrure ou quoi que ce soit, mais pareil, une deuxième fois, une personne âgée, une dame qui retirait au guichet de l'argent, et deux petits jeunes derrière qui attendaient. Au moment où l'argent est sorti, ils l'ont arraché des mains. Ils ont commencé à courir. Moi, j'arrive à ce moment-là et j'ai vu cette scène. Donc, j'ai arrêté le petit directement qui avait l'argent dans les mains. J'ai rendu à la dame. Et vraiment, elle m'a beaucoup remercié parce qu'elle m'a dit que c'était son argent pour faire les courses et que sans ça, elle n'aurait pas pu manger pendant quelques jours. Vraiment.
Et quand vous attravez le petit jeune, il se débat ou
là chez moi, monsieur, désolé, excusez-moi, laissez-moi partir. Il commençait limite à pleurer. Oui, c'était vraiment des petits jeunes.
C'est pas les courageux. Hein.
J'ai pas tenté de les arrêter jusqu'à appeler la police ou quoi que ce soit. J'ai rendu l'argent à la dame et puis.
Mais voyez.
Mais Magomed, ce que vous dites, c'est courageux ce que vous avez fait, comme a fait notre invité, évidemment. C'est courageux. En même temps, c'est pas donné à tout le monde, faut le dire. Mais le mieux, et ce que disait très bien Barbara tout à l'heure, c'est jouer le collectif. C'est-à-dire, même avant l'intervention, se mettre d'accord avec des gens et se lever à 3-4 pour aller au contact. Je pense que c'est déjà une solution. Après, si vous êtes un spécialiste sport de combat ou quoi, évidemment, vous lui en mettez les bonnes et puis c'est réglé. Moi, ça veut dire, j'aurais pas.
Mais voyez, mais en soi, c'est compliqué. Tous les jours, dans l'actualité, on voit de la violence quasiment gratuite, sauvage. On a l'impression que les gens seraient prêts à tuer pour pas grand chose, pour un regard de travers. Donc c'est vrai qu'on est dans un univers qui n'incite pas, désolé Barbara, à intervenir en fait.
Je pense qu'il y a de plus en plus de gens armés déjà, il y a de plus en plus de couteaux qui circulent. Moi, la première réflexion de mon frère après mon agression était, mais heureusement qu'il n'y avait pas de couteau.
Ouais, c'est vrai.
Donc parce que là, je ne serais pas là pour en parler non plus. Mais à côté de ça, il y a aussi le fait d'utiliser la violence pour voler plus facilement. Je connais une jeune fille comme ça qui s'est fait voler son téléphone, on lui a frappé la tête contre le mur de la rame. Pour vraiment frapper psychologiquement, que personne n'intervienne et partir avec le téléphone. La violence est aussi un outil pour finalement avoir la paix, pour faire ce qu'on a envie de faire.
Et ça va ouvrir le débat encore une fois que les grandes associations, la CNIL et compagnie, sur les libertés publiques, etc. C'est des caméras, c'est blender en caméra, ce que font d'autres pays, et ça marche très bien, pour retrouver des auteurs, parce que ça c'est important. Et la sécurité, ça passera par là. Et les Jeux Olympiques vont bien nous aider, je pense,
sur ce sujet-là.
Tout ce qui est intelligence artificielle, etc.
Dans les expériences de psychologie sociale, justement, sur la soumission à l'autorité, etc., et sur l'engagement des gens, on a fait plein d'expériences. Par exemple, on met des gens dans une salle d'attente, il y en a un ou deux qui savent ce qui va se passer, les autres non, et on fait rentrer de la fumée, par exemple. Donc, il y a un danger, il y a un danger immédiat. Et ben en réalité, les gens se regardent. Et si personne ne se lève, personne ne se lève. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui dise c'est pas normal, il y a de la fumée. Et là, tout le monde se lève. Donc, c'est, on est des animaux, hein, on est des mammifères et en plus, on est grégaires. Là, il faut le savoir, hein, Homo sapiens, il a une grande partie de grégarisme. Donc, à partir du moment où il y en a un qui se lève, le signal danger, il est envoyé aux autres. On est des animaux.
Oui, mais
donc,
là, ben oui, mais là, judiciaire, lui, il s'est levé en quelque sorte.
Et il s'est levé, mais dans le couloir, quand il a été agressé, peut-être que dans le couloir, si un s'était arrêté, d'autres se seraient arrêtés. Mais comme tout le monde marche et voit le troupeau qui avance, ils disent, ah bah, si tout le monde avance, j'avance et aussi. Donc voilà. Parfois, il faut rompre le grégarisme.
Quel ton de voix vous aviez, Jukel? Est-ce que vous parliez fort, comme ça, en disant, oh, ça va?
Je poussais la voix, mais calme et posé, pas du tout agressif.
Vous désamorcez, ouais.
Parce qu'à la limite, oui, mais
des position d'autorité, mais calme. Aussi pas rajouter la testostérone, ouais. Ça sert à rien.
Mais ça aurait pu,
Merci à Amma Gomed d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné. C'est un livre à lire, Judicaël Irel, Concorde Rouge. C'est aux éditions Le Cherche Midi. Merci d'être venu témoigner, Judicaël. Et si c'était à refaire, il le referait. C'est ce qu'il nous dit. Dans un instant, ça se passe chez vous. Avec Haguenau, dans le Bas-Rhin, un boulanger décide de maintenir sa baguette à 1 euro. Malgré l'inflation,
ça devient un exploit maintenant.
Malgré la hausse des matières premières, malgré l'électricité, malgré le gaz, ça se passe à Haguenau. On aura ce boulanger avec nous. La baguette à 1 euro, est-ce qu'on en trouve encore? C'est au 32-16 qu'on en parlera avec vous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
L'IGG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre. Nous sommes avec Jean-Baptiste Djebari, avec Bruno Pomard. Vous savez qu'il y a 11h-20. C'est l'heure du « Ça se passe chez vous ».
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe chez vous.
Tous les jours, on regarde un petit fait de société, comme ça, une ville qui s'illustre et ça nous donne envie d'en discuter. Ma chère Anaïs Sens, aujourd'hui, nous allons à Haguenau.
Eh oui, Haguenau, dans le Bas-Rhin. Les amis, on a trouvé là-bas une baguette à 1 euro.
On y va tous.
Les collègues de BFM Alsace, hein, exactement, l'ont déniché. Alors, on le sait, on en a suffisamment parlé sur RMC. L'inflation et l'augmentation du prix des matières premières a forcé les boulangers à augmenter leur prix de 20 à 30%. Aujourd'hui, une baguette coûte entre 1,20 euros et 1,50 euros selon les boulangeries. Et pourtant, un artisan de Haguenau, dans le Bas-Rhin, a décidé coûte que coûte de maintenir le prix de sa baguette à 1 euro. Pour s'y retrouver, il a décidé d'augmenter les prix de certains de ses produits, sauf l'intouchable baguette. Il va nous expliquer. Il s'appelle Volcan In. Bonjour Volcan.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue Volcan. La baguette à 1 euro, c'est compliqué à maintenir aujourd'hui?
Oui, un peu quand même.
Attendez, déjà précision, c'est une baguette tradition ou c'est une baguette normale?
C'est une baguette normale au levain naturel.
D'accord.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui ça devient exceptionnel d'avoir une baguette à 1 euro?
En fait, toutes les matières premières, comme vous savez, ils sont augmentés. Mais nous, on s'est mis d'accord, moi et ma famille, et toute mon équipe, on peut dire comme ça, et on s'est mis d'accord de maintenir la baguette à 1 euro. Et pour arriver à ça, en fait, on s'en compose de vendre autre chose, c'est-à-dire on a plusieurs d'autres produits à côté.
D'accord.
Que vous avez le Volcan, le coût de revient de la baguette aujourd'hui, c'est combien chez vous?
On y a la farine, on achète à pratiquement 1 euro. TTC, du coup, j'ai pas vraiment
De marge.
Vous faites pas de marge sur la baguette?
Pas de marge sur la baguette.
C'est un produit d'appel. Sur la baguette, en fait, c'est pris au coton.
Oui, donc en fait, faites 1 euro parce que c'est un produit d'appel, mais vous gagnez pas votre vie sur la baguette.
Moi, en fait, on s'est dit on garde la baguette à 1 euro parce que tout comme ça, tout le monde peut se permettre de prendre une bonne baguette au levain naturel et aussi pour combattre cette crise de notre côté, quoi.
Ouais. Mais est-ce que, parce que moi j'ai vu qu'il y a des boulangers qui maintenaient 1 euro, mais la baguette était plus petite. Ils réduisaient les parts.
Non, je suis pas chez nous.
Pas chez vous?
Non, chez nous.
Bravo. Mais en fait, en même temps, le modèle, il est quand même fragile parce qu'il faut vendre à côté.
Mais sur vos autres produits, que ce soit les viennoiseries et les pâtisseries, vous avez augmenté de combien de pourcents à peu près?
Le pain au chocolat est à 50 euros.
Voilà ce que j'ai dit. Non, mais le reste, vous avez quand même augmenté de quoi? 15%, 20%?
Non, on n'est pas plus cher que les autres confrères. mais c'est on est au même stade que tout le monde, mais juste c'est juste la baguette qu'on a laissée.
Mais c'est symbolique. Normal.
Et vous avez gagné des clients,
c'est
du coup.
C'est devenu un symbole en fait maintenant. C'est...
Est-ce qu'il y a des clients qui ont déserté vos concurrents et qui viennent chez vous parce que la baguette est moins chère?
Forcément, je pense, mais en fait, nous sommes une boulangerie qui est ouverte qu'il y a, ça fait pas longtemps, ça fait que 2 ans. Mm-hmm. Et du coup, on est en train de
s'installer,
constituer votre clientèle petit à petit.
Vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça éternellement si vous ne gagnez pas d'argent.
Oui, c'est ça.
C'est bien de faire ça, en termes de citoyen, c'est formidable, je trouve, mais vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Si vous ne gagnez pas, ou vous rattrapez sous d'autres produits, comme disait Barbara, mais sinon, sur le long terme, ça va être un peu problématique pour vous quand même.
En fait, comme Barbara elle a dit, on arrive à rattraper, tout simplement, il y a la pâtisserie, il y en a des sandwichs, il y en a plusieurs d'autres produits. Et grâce à ça qu'on peut garder la baguette à 1 euro.
Ouais. Merci Volcan d'avoir été d'avoir été avec nous quelques minutes. Volcan In Boulanger à Guenot dans le Bas-Rhin.
Ça prouve que c'est un petit indépendant comme ça qui fait ça. Je pense que tout le monde pourrait se mobiliser autour de.
Et il vaut mieux aller manger une baguette à 1 euro chez le boulanger que de l'acheter à 80 centimes dans un centre commercial et une boulangerie industrielle.
Puisque quand même c'est un aliment de base quoi, hein, que tous les Français utilisent.
Donc il faut que ça ait du.
Oui, mais lui il a fait un choix, mais il gagne pas sa vie sur cette baguette.
Oui. Donc, non, mais ça c'est évident. C'est pour ça que
c'est pas le problème.
Non, mais c'est. La stratégie commerciale est intéressante si effectivement il arrive à gagner un peu de clients qui vont dans son environnement délester un peu ses concurrents pour venir
parier sur la masse. Ouais.
Ce qu'il y a, c'est que regarde, aujourd'hui, c'est devenu un argument de vente dans une boulangerie. La baguette, c'est devenu le symbole. Ouais. Et maintenant, quand tu passes devant les boulangeries, avant, tu fichais plus les prix. Maintenant, à l'extérieur, il y a marqué ici la baguette à 1 euro ou la baguette à 0,90 ou 95. Donc, enfin, se dire dans quelle époque on est rentré.
Ça raisonne le pouvoir d'achat.
Une baguette achetée, une offerte aussi.
Aussi, ouais.
Ah ça je l'ai pas vu.
Ouais, je l'ai vu.
Si, chez un boulanger traditionnel.
Non, généralement c'est des groupements là.
C'est les fournils.
Oui, fournils, exact.
Oui, mais pardon. Aussi on est tous passés vers la baguette tradition. Avant on achetait moins cher aussi le pain parce que c'était pas baguette tradition. Et maintenant on s'est habitué à acheter baguette tradition. Ouais. Moi je reviens la baguette traditionnelle. J'en ai un peu marre la tradition.
Ah ouais.
La tradition, la céréale, la graine.
Elle est moins chère, elle est bonne.
Tu en manges beaucoup. Graine.
Moi, j'aime beaucoup pas. Moi, j'adore ça.
On a Rémi, boulanger qui nous appelle de la Meuse. Bonjour, Rémi.
Bonjour. Je peux pas être en t-shirt comme j'en
veux. Bonjour, boulanger indépendant.
J'aime le pain aussi.
Oui.
Comme Volcan. Et vous, votre baguette, elle est à combien?
0,75 centimes.
Combien?
0,75.
Non. Vous la faites avec quoi?
95, excusez-moi.
Ah bon?
Mais elle a augmenté, dites donc, l'espace de
4 TVA. Ouais. C'est la TVA, là. La
prime à centimes. Sacrée inflation chez vous.
Avant la crise énergétique, elle était à 0,90 et là, avec l'augmentation ODF, on est obligé de la passer à 0,95.
Et vous n'avez pas réduit la taille?
Ah non.
D'accord.
Et comment vous gagnez alors?
La taille, ça compte.
Comment vous arrivez à gagner de l'argent?
Ça dépend quand tu t'en sers.
En fait, moi, je travaille avec un petit meunier local. Et en fait, on essaye de faire tout en circuit court et tout le monde s'y retrouve.
Mais on y revient, c'est un peu comme les maraîchers et compagnie, tu sais, circuit court, c'est-à-dire les produits locaux. Moi, je vois ma fille dans la ferme là-bas, il y a un mec qui vient lui porter des cagettes de fruits, etc., du producteur directement au consommateur. Vous vous foutez de ma gueule.
Les AMAP en ville, ça te permet aussi d'acheter.
Est-ce que vous gagnez de l'argent à 0,95?
Ah oui.
Expliquez la recette alors, dites-nous comment vous gagnez de l'argent.
Après, on est tout seul avec ma femme au fournil. Oui.
Ah voilà,
donc
déjà.
On n'a pas d'ouvrier aussi. On a réduit un peu notre marge, mais on gagne encore de l'argent.
Est-ce que madame est payée?
Ah bah oui.
Oui, non, mais il y a des femmes qui. Pendant longtemps, les femmes d'artisans, bouchers, boulangers,
c'est déjà plus facile.
Elles n'étaient pas payées.
Elle est aussi gérante que moi, donc voilà.
Ah, très très bien.
Et pas qu'elle est mieux payée que vous.
Non, on est mieux. C'est pareil.
Mais alors, du coup, parce que vous êtes où dans la Meuse, Rémi?
À Sorcy-Saint-Martin.
Bon, et
à côté avec. De Commercy.
D'accord. Et avec tous vos collègues boulangers, vous regardez un peu les prix qui sont pratiqués, justement?
Oui, après, on se tient quasi tous, nous. Hein.
Et voilà. Donc, il n'y en a pas un qui est passé au-dessus de 1 euro pour la baguette normale?
Si, il y a certains confrères, ils sont passés au-dessus d'un euro, mais bon.
C'est des choix.
Ils sont peut-être plus gros en magasin.
Non, on est dans le secteur, c'est la campagne, on est tous indépendants, on est des petits boulangers. Hein.
Et vous achetez tous au même producteur?
Comment?
Vous achetez tous au même producteur la farine?
Ah non. Non. Dans le secteur, il n'y a que moi qui prends le petit moulin local là, quoi.
Mais est-ce que vous en sortez? Parce que là, on en parle moins parce qu'on est sorti de l'hiver, mais on se souvient que les boulangers étaient quand même quasiment les premières victimes de l'augmentation du coût de l'énergie, d'autant plus qu'on vous aidait pas comme on a pu aider d'autres.
À cause de l'Ukraine?
Vous en êtes où, vous, justement?
Du blé, hein,
parce que c'est
moi,
pas fini.
Tout ça, ça a été parce que j'avais renégocié mon contrat avant l'augmentation.
Ah, ouais. Coup de peau.
Donc, bien joué. Je m'en suis bien sorti.
Bien joué, bien joué.
Ah bah ça, c'est bien.
Allez, encore, Rémi de la Meuse, on va écouter votre copain Johnny. Johnny qui est à Saint-Mandrier, dans le Var. Bonjour, Johnny.
Oui, bonjour.
Boulanger aussi.
Oui, voilà, de pouvoir réagir. Parce que je montais dans ma voiture et puis j'entendais, comme d'habitude, l'émission. Et il y avait Boulanger qui parlait, qui disait qu'il maintenait sa baguette à 1€.
Oui.
Moi, je voulais dire que moi, c'était le cas aussi. Et je suis sur la Côte d'Azur. Et on gagne toujours notre vie en faisant la baguette à 1€. Si vous voulez, l'augmentation des farines, moi j'ai vu avec mon moulin, ça représente 3 centimes par baguette et on gagne encore notre vie même à 1€.
Et même malgré le coût de l'énergie
Malgré le coût de l'énergie, moi j'ai pas ressenti d'augmentation vraiment, vraiment terrible sur l'énergie. Je pense que c'est un métier qui s'est mis un peu à pleurer sur... on s'est mis un peu à pleurer sur notre sort parce qu'on a été dans la lumière avec l'énergie, l'augmentation des matières premières. Alors, c'est clair que c'est plutôt la concurrence qu'il faudrait, les grandes surfaces, tout ça. C'est plutôt de ça qu'il faudrait parler, qu'ils nous tuent le métier, ils nous tuent la baguette traditionnelle. Mais voilà, le sucre, tout ça pour la pâtisserie, c'est vrai que les augmentations, on est obligé de.
Les gâteaux, c'est un peu augmenté, hein. C'est un secteur que je connais bien, la pâtisserie. Personnellement, je suis assez expert en la matière. Et j'ai vu que, par exemple, le flan, la part de flan, l'éclair au chocolat, ça a pris quelques centimes d'euros.
C'est obligé, la viennoiserie, tout ça avec le beurre et tout.
Je suis sidéré d'entendre ça, sans déconner. Je suis content, mais je suis sidéré d'entendre ça parce qu'il y a quelques mois, on était sur le plateau, à dire tous les boulangers ferment, tous les boulangers dépassent.
Oui, il y a des boulangers qui s'en sortent.
Non, mais
la preuve, c'est que.
Je comprends pas.
Les prix d'énergie sont redescendus un peu.
Oui, mais quand même.
Toute ma famille a des boulangeries et il n'y a personne qui a fermé. On a eu
des difficultés,
bien sûr, de trésorerie, tout ça. Moi-même, mon affaire n'est pas en super santé. J'ai beaucoup de concurrence autour et les gens vont un petit peu partout se servir et tout. Mais ce n'est pas vrai que les boulangers ne gagnent plus d'argent.
Aujourd'hui, Johnny, est-ce que franchement, on arrive vraiment, pour vous, pour les boulangers traditionnels, à garder la baguette basique entre 0,90 et 1€? C'est faisable?
Oui, c'est largement faisable et on gagne encore notre vie. On gagne notre vie. Ouais, on la gagne plus super en boulangerie. Hein. C'est plus l'époque d'avant où mon père était boulanger, mon grand-père était boulanger. On gagnait très très bien notre vie. Là, c'est dur. C'est dur. Comme tous les Français, c'est dur.
C'est dur. Johnny l'a dit. C'est dur à cause de la concurrence des centres commerciaux et de l'industriel.
Oui. Voilà, et des charges sur moi qui est gérant et que moi, pour 1000€ que je me donne, je dois donner 750€. J'ai 75% parce que je suis gérant salarié de mon entreprise.
Combien vous payez, Johnny, si c'est pas indiscret?
C'est pas indiscret du tout. Là, je me paye 500€ en prenant la CAF et tout, parce que je mets un peu plus de salaire sur ma femme pour joindre les deux bouts, parce que moi, mon salaire, il est trop taxé, quoi. Et pour ne pas avoir de chômage quand je vendrai mon entreprise en plus, hein. Je ne cotise pas pour le chômage avec ces 75.
Et oui, bien sûr. Merci, voilà. Johnny. Venez les boulangers.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous. Merci de Haguenau en Alsace, en passant par la Meuse et par le Var. Ça se passe chez vous.
La boulangerie, c'est le patrimoine français.
Artisan boulanger, voilà là où il faut acheter.
La baguette à 1€ qui arrive à tenir encore aujourd'hui.
Bravo.
Félicitations. Dans un instant,
ça m'a donné faim.
À vous de choisir. Vous voulez que l'on parle ensemble de l'arrêt du tabac? Est-ce qu'il va falloir prescrire les vapoteuses, rembourser les cigarettes électroniques? Est-ce que ça peut être une bonne chose pour arrêter de fumer? À tout de suite au 32
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.